France Inter.
L'historien Georges Vigarello est spécialiste de l'histoire de l'hygiène, de la santé et des représentations du corps. Agrégé de philosophie et docteur ès lettres, il occupe la chaire d'histoire des pratiques corporelles à l'EHESS et a co-dirigé le centre Edgar Morin. L'ancien professeur d'EPS au lycée Michelet de Vanves, nom qui prédestine à l'histoire, est l'auteur du Corps redressé sur l'histoire et la philosophie du sport, sujet de sa thèse de lettres. Autrefois pratiquant de saut à la perche, il a consacré plusieurs livres au sujet comme Passion sport, histoire d'une culture ou encore récemment Sport, une histoire en images de 1860 à nos jours avec Michel Pastoureau. Dans ses ouvrages, il a retracé l'histoire de la beauté, celle des pratiques de la santé, de l'obésité, du viol, du propre et du sale, de la fatigue, de la silhouette, du sentiment de soi et des lointains. Il a par ailleurs dirigé plusieurs ouvrages collectifs avec Alain Corbin et Jean-Jacques Courtine, dont une magistrale histoire du corps en 3 volumes, ainsi qu'une histoire de la virilité et une histoire des émotions, formant aussi de passionnantes trilogies. Au Seuil paraîtra bientôt son nouvel ouvrage, intitulé « Les logiques du corps, une autre manière de penser le temps ». Ce soir, nous avons pris le prétexte d'une carte blanche pour l'inviter, l'occasion de revenir sur son parcours et de découvrir les œuvres qu'il affectionne et qui l'ont façonné. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Georges Vigarello.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé?
Ah, c'est une question difficile.
Ouf, ou facile.
Nous sommes dans une période où il y a peut-être des choses qui m'inquiètent.
C'est plutôt comme ça. Ça, j'en suis sûr, mais c'est pour ça que je pose cette première question.
Écoutez, j'ai été quand même très marqué par les JO de 24. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un tel engouement et à ce que les choses se passent avec autant de facilité, même si, bien entendu, dans un certain nombre de flux parisien, les choses ont été compliquées. Mais je ne m'attendais pas à ça.
Qu'est-ce qui vous a marqué dans ces JO, vous qui avez eu le prix de Coubertin?
Écoutez, c'est quand même incontestablement une grande variété d'abord de pratiques, de plus en plus évoluées, de plus en plus étendues, et en même temps un choix qui, moi, me touche beaucoup, qui favorise ce que j'appellerais les pratiques acrobatiques, avec des instruments un peu improbables, comme le vélo, les descentes assez périlleuses dans des forêts. Ça me marque beaucoup parce qu'on voit très bien qu'il y a une évolution à laquelle peut-être on ne fait pas suffisamment attention, qui nous fait passer d'un prestige donné à la force, à l'énergie, à la résistance, à des qualités physiques qui sont celles de la fluidité, de la légèreté et de l'acrobatie. Ce qui n'est pas du tout d'ailleurs éloigné de la façon même dont nos techniques au sens large du terme changent. Voyez, on a des techniques qui sont de plus en plus fluides, qui sont dans une certaine mesure de plus en plus digitales.
Alors l'évolution...
Autrement dit, le sport n'est pas indifférent au milieu.
Écoutez, ça c'est passionnant et on va y revenir puisqu'on va parler évidemment de l'évolution générale du corps dans plein de domaines. Mais j'aimerais, si vous le permettez, vous poser une question vous concernant personnellement. Quelle est l'évolution du rapport à votre corps et à sa représentation?
On ne peut pas répondre à cette question sans prendre en compte l'âge. Évidemment, l'âge réduit considérablement vos possibilités de pratique. Et en plus, moi j'ai eu des pratiques assez intenses.
Vous faisiez du saut à la perche?
Oui, je faisais du saut à la perche, je faisais de la gymnastique, des pratiques assez intenses autour de 20-25 ans, qui laissent quand même des traces physiques, hein, les chutes, un certain nombre de traumatismes, etc. Et ces traumas, non seulement ils persévèrent, si je peux dire les choses comme ça, mais dans une certaine mesure, ils s'accentuent. Donc, mes pratiques sportives sont devenues extrêmement réduites. Elles ne sont pas inexistantes. Je traverse avec grand plaisir les espaces parisiens, à pied.
À pied?
Oui.
Mais les médecins s'accordent tout de même pour dire qu'un corps qui bouge, même s'il y a quelques séquelles suite à certaines blessures, ira mieux qu'un corps qui ne bouge pas.
Ah, c'est une évidence.
Bah, écoutez, vous me rassurez. Je vais devoir, hélas, m'activer.
En plus, il y a autre chose aussi qui est très important dans ce genre d'évolution, c'est que les pratiques faites de manière assez assidue dans des périodes, appelons-les précoces, vous laissent des traces sur un autre plan, c'est que vous apprenez à vous écouter. Et ça, c'est très important. Alors, parfois, c'est un peu inquiétant parce que vous risquez de vous écouter trop. et vous risquez de tomber dans l'hypocondrie. Mais s'écouter, c'est quand même quelque chose de très important. Et j'avais consacré un livre là-dessus, qui s'appelait « Le sentiment de soi »,
bien sûr,
où j'essayais de m'interroger sur la manière dont l'écoute du corps a changé dans le temps. Autrement dit, elle change dans votre propre temps, mais elle change aussi dans le temps long.
C'est
la
vrai.
Façon dont les gens s'écoutent aujourd'hui est très différente de la manière dont les gens s'écoutaient hier. Même le rapport à la douleur n'est absolument plus le même.
Et par exemple, je crois que c'est dans l'encyclopédie qu'on a commencé à parler du rapport au corps.
Exactement. C'est dans l'encyclopédie que on commence à se poser des questions sur la façon dont l'existence est éprouvée, vous voyez ? Le sens, en quelque sorte, le sens interne.
Et pourtant, on le ressentait avant, il n'en parlait
oui,
pas.
Oui, mais on n'en parlait pas, c'était tu. C'est très important, ça. Bah, si vous prenez l'exemple de la douleur, moi, ça m'a beaucoup touché. Vous avez des définitions de la douleur, évidemment, et vous avez des qualifications de la douleur. Sous l'Antiquité, avec des gens comme Galien, il y a en gros 5 types de douleurs. Et au XVIIe, il y en a déjà beaucoup plus. Chez quelqu'un comme Altmüller, qui a écrit une pratique de médecine absolument magnifique dans les années 1660, vous avez 10 douleurs. Et lorsque vous lisez les textes de la fin du XIXe, ça paraît absolument étonnant. Vous avez, chez un certain, comment ça s'appelle, Hollande, vous avez 100 douleurs. Vous voyez, c'est quand même marquant. Et c'est marquant de quoi ? D'une écoute accentuée.
Et sommes-nous pour y gâter aujourd'hui à ne plus supporter de quelconque douleur, pression ?
Je ne dirais pas pour y gâter. Je dirais que nous sommes de plus en plus sensibles. Et en particulier, nous sommes, dans une certaine mesure du coup, de plus en plus hostiles à tout comportement violent, à tout comportement brut. Je crois, pour aller vite, évidemment, faire un parallèle qui est contestable et qui est caricatural, je crois que c'est une des raisons qui nous fait craindre la guerre.
Ouais.
Pour aller vite, vous voyez.
Ouais, bien
là,
sûr,
vraiment,
bien
je
sûr.
Fais un bond considérable. Mais
vous
quand
avez,
même.
Vous avez écrit une histoire de la fatigue. On s'en plaint énormément aujourd'hui. Il y a une fatigue informationnelle que vous soulevez d'ailleurs
oui.
dans cet ouvrage. Est-ce qu'on est plus fatigué aujourd'hui, puisque l'être humain n'est pas fait pour être autant stimulé, ou est-ce qu'on a tout simplement plus le loisir de s'observer et de se plaindre de la fatigue ?
Bah, écoutez, c'est un peu les deux, évidemment. Le fait de s'observer, comme je le disais tout à l'heure, le fait de s'écouter nous rend beaucoup plus sensibles aux moindres traces, aux moindres obstacles, à la moindre difficulté. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans l'histoire de la fatigue, je sais que j'ai été critiqué là-dessus, mais je tiens de manière absolument déterminée à mon propos. Ce qui m'a intéressé dans l'histoire de la fatigue, c'est que cette histoire, elle est faite de mises en évidence de fatigues qui sont différentes. Vous voyez ? Par exemple, au Moyen-Âge, les grandes fatigues dont on parle, ce sont celles du combattant. Beaucoup de détails, hein, en particulier sur les croisés. Bon, c'est beaucoup moins, mais quand même, la fatigue du laboureur, même si c'est relativement peu évoqué, parce que le laboureur n'est pas l'objet d'une grande estime. Et puis, au contraire, vous commencez à voir apparaître des fatigues différentes au XVIIe siècle, lorsque les versants administratifs deviennent plus importants, lorsque la cour devient plus importante. À ce moment-là, vous commencez à voir des seigneurs qui se plaignent d'avoir trop d'écrits à gérer. Et donc, c'est une fatigue qui me paraît être différente, à la fois physique et psychologique. Et plus vous avancez dans le temps, et plus ce sont des fatigues psychologiques qui l'emportent quand même, voyez. Au fond, le fait de ne pas se sentir en adéquation avec soi-même. Et du coup, les définitions de la fatigue changent, en fait. C'est ça qui me paraît intéressant.
Mais par exemple, si on, au siècle précédent,
oui.
Plusieurs siècles en arrière, si on
oui.
avait une migraine, on ne s'en plaignait pas, c'était presque un état normal.
Alors vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de symptômes qui n'étaient pas même pas vécus comme symptômes, qui n'étaient pas évoqués, vous voyez. Et alors ce qui est très intéressant, c'est le fait de constater que certains symptômes qui étaient tus, sans doute existaient-ils, commencent à être évoqués, je pense en particulier à nouveau au XVIIe, c'est très intéressant le XVIIe siècle, un certain Maillefert commence, lui, à parler de ses douleurs qui traversent sa jambe, de ses difficultés de respirer, etc., ce qui était totalement absent auparavant. Et vous commencez aussi à avoir des nuances. Je pense à la goutte. La goutte est très présente dans les époques précédentes parce qu'on avait du mal à la soigner et parce que la nourriture n'était absolument pas surveillée. La goutte est très forte, en particulier dans les élites au XVIe siècle. Henri III a des gouttes terribles, etc. Je ne parle pas de Louis XIV au XVIIe. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que vous avez, à partir du XVIIe, une manière qui constate des degrés de goutte, vous voyez ? Alors, vous avez la goutte franche, qui vous empêche de parler. Et puis, vous avez un sentiment de goutte, qui vous entraîne à boiter, mais quand même, vous parchez. Et ça montre bien que l'écoute et l'attention n'ont fait que grandir avec le temps.
La 20e heure. Eva Bester. Sur France Inter.
Georges Vigarello, vous aviez un père moniteur de gymnastique qui enseignait aux écoles de Monaco et entraînait aussi des athlètes. Vous avez vous-même enseigné le PS au lycée Michelet de Vanves, je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez été le directeur du centre de recherche d'histoire du sport dans les années 70. On a parlé du saut à la perche. On va parler du corps entretenu, du corps qu'on ne veut plus contraindre. Mais je voulais savoir si vous aviez déjà, vous, maltraité votre corps.
Écoutez, sans aucun doute, la formation des professeurs d'éducation physique, lorsque je l'ai abordée, était une formation que je ne regrette pas du tout, qui était extrêmement intéressante, mais qui, par certains côtés, n'était pas toujours attentive à la façon dont des traumas pouvaient s'installer, des chutes, je disais tout à l'heure, des chutes avec les reins arqués, donc avec des poids extrêmement forts sur les disques vertébraux, avec des traces qui laissaient, etc. Donc, je pense que ça, c'est une forme de maltraitance. Cela dit, en ce qui me concerne, c'est très curieux, et votre question finalement m'interroge moi-même. En ce qui me concerne, je me rends compte que j'avais du mal à affronter la course dure, et que je me retenais, vous voyez ? Parce que j'avais du mal à affronter la douleur, alors que j'avais des amis qui au contraire l'affrontaient sans problème. Je ne parle pas des cyclistes, qui sont des champions dans ce sens.
Vous avez montré à travers de nombreux ouvrages qu'au cours de l'histoire, évidemment, on a voulu se dégager de la contrainte, du corps contraint. Je pense par exemple au corset, pour citer un des exemples les plus faciles à imaginer. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a d'autres formes de contraintes. Comment est-ce qu'on contraint nos corps aujourd'hui ?
C'est une immense question, la contrainte. Moi, je viens de terminer un livre où je donne une place très importante à ce que j'appelle les pratiques d'affranchissement. Et ces pratiques d'affranchissement, elles sont intéressantes parce que elles sont continues dans le temps. Et elles s'accroissent, si vous voulez. Vous citiez tout à l'heure Rousseau. C'est un exemple magnifique, Rousseau. Parce que c'est quelqu'un qui s'oppose de manière absolument tranchée aux pratiques qui semblaient absolument normales au XVIIe siècle encore, un siècle avant lui, qui étaient les pratiques de port de corset. Le corset porté sur les enfants, extrêmement raide, mais aussi le corset en particulier porté par les femmes, et le corset dans certains cas porté par les hommes. Donc là, il y a une sorte de perspective qui va dans le sens d'un affranchissement. Mais ce qui est tout à fait passionnant dans ce type de questions, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, cet affranchissement n'a fait que grandir. Si vous prenez l'exemple de la robe, sur lequel moi-même j'ai beaucoup travaillé, vous avez, je dirais post-Rousseau, si je peux utiliser ce mot, vous avez une robe qui, au moment de la Révolution française, tombe brusquement, totalement, sans serrer la ceinture et sans serrer le buste. Alors que le buste et la ceinture étaient considérés comme décisifs dans leur contrainte dans les décennies auparavant, à un point tel, moi j'adore cette image, à un point tel que le profil féminin dans les années 1750, c'est un profil de fleur, c'est-à-dire la robe s'évase à partir de la taille, ça devient une sorte de peau, si je peux utiliser cette métaphore qui ne vaut pas grand-chose, le buste devient une tige parce qu'il est extrêmement serré, et le visage sort de cette tige comme une fleur, vous voyez. Et puis, ce dispositif-là disparaît au moment de la Révolution française parce que il est considéré comme trop contraignant. Et ce qui est très intéressant dans cette affaire, c'est que, vous le savez aussi bien, sinon mieux que moi, après la Révolution française, la contrainte à l'égard de la femme regrandit à nouveau. La Restauration, c'est un retour de la contrainte. Donc la tenue de la robe reprend la perspective qu'elle avait au début du XVIIIe siècle. Et la traversée du XIXe, c'est précisément celle d'un extraordinaire travail, passant par Georges Sand et quelques autres, pour se défaire de cela. Et pour aboutir à la fin du XIXe, à une robe qui, à nouveau, tombe droit, est extrêmement souple, est absolument fluide par rapport au geste lui-même, si bien qu'aujourd'hui, pour répondre à votre question, il me semble que c'est davantage la morphologie qui impose la tenue que la tenue qui contraint la morphologie.
Enfin. Alors, sous votre plume, j'ai appris que des positions banales du corps avaient été moralisées. Alors, aujourd'hui, on pourrait en dire autant. Il y a des positions qui sont moralisées. Mais ce qui est insolite là, c'est qu'au Moyen-Âge, par exemple, on recommandait aux pages de ne pas s'appuyer sur leurs coudes, oui, lorsqu'ils étaient à table.
Oui, parce qu'il y a effectivement une morale du corps. Il y a une morale du corps qui consiste à être, comment vous dire, attentif à l'autre, à ne pas montrer un relâchement, à montrer quelque chose qui se raidit de l'intérieur, qui obéit à une sorte de contrainte. Vous voyez, il y a ça. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que dans les périodes qui ont évolué, qui ont poursuivi, vous savez, la contrainte n'a pas disparu, mais elle passe par d'autres repères. Par exemple, un repère que je connais bien, c'est celui de la gymnastique. vous avez au début du 19e siècle à la fois exactement la même contrainte, mais expliquée totalement autrement, à savoir, il faut avoir la poitrine dégagée, il faut que l'oxygène puisse circuler dans le corps, et il faut les cuisses parallèles au sol, il faut les jambes verticales au sol, c'est très précis, hein, et ça entraîne une véritable organisation, j'avais beaucoup travaillé là-dessus, une véritable organisation de ce que j'appelle le mobilier scolaire. Mais les raisons à expliquer ne sont pas les mêmes.
Et lorsqu'on on s'est débarrassé enfin du corset, on s'est encore plus tourné vers la gymnastique.
Alors on peut dire ça, on peut dire, oui, il y a beaucoup d'interprétations de ce genre. Hein. On peut dire que ce qui a pris la place du corset, c'est le muscle. Et donc, c'est aussi la discipline du muscle. Alors personnellement, je trouve que c'est évidemment pas faux. Mais en même temps, c'est pas non plus totalement ça. Parce que ce qui se produit quand même à travers le mouvement, à travers la gymnastique, c'est un procédure de liberté quand même. C'est un procédure de renforcement de soi. C'est un procédure d'écoute de soi. Vous voyez, il y a des exemples dans les années 30 que je trouve tout à fait passionnants et qui sont les suivants. Ne faites pas nécessairement les mouvements aux agrès, mais faites les mouvements en pensée. Par exemple, vous êtes dans un bus, essayez de penser à la façon dont vos muscles se contractent, à la manière dont vos mains peuvent saisir un objet. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Pourquoi ? Parce que ça joue sur l'intériorisation. Et dans une certaine mesure, ça joue sur la libération.
Et quel est votre avis sur le pouvoir qu'a l'esprit sur le corps et inversement ?
Écoutez, c'est une grande question. J'ai toujours du mal, personnellement, à faire cette différence entre l'esprit qui agit sur le corps qui agit sur l'esprit. Moi, je suis très frappé par le fait que, dans une grande mesure, évidemment pas complètement, mais dans une grande mesure, le corps, c'est notre continuité. Il n'y a pas vraiment d'obstacle. Le corps poursuit, finalement, ce que vous êtes. On le voit très bien lorsque vous êtes habitué à allumer une lampe. Votre bras vous précède pour l'allumer, voyez. Donc votre corps, c'est quelque chose qui est en continuité avec vous. Et j'ai un exemple dans ma tête que j'ai toujours trouvé absolument magnifique. C'est celui de Lévi-Strauss qui essaie de commenter le comportement du chaman lorsque le chaman vient chanter une chanson auprès d'une parturiente qui a du mal à pouvoir assumer son accouchement. Et à ce moment-là, l'explication de Lévi-Strauss est magnifique, parce qu'il ne dit pas, c'est finalement l'esprit de cette dame, de cette femme, qui va agir sur son corps. C'est une sorte de continuité. Le corps est enveloppé, il est pénétré en quelque sorte par le champ, vous voyez. La chair devient une chair psychologique. C'est ça que je trouve très intéressant.
Mais vous pensez que nous sommes composés d'énergie ? Parce que ça peut paraître New Age, mais c'est pas vrai. Einstein était aussi d'accord, c'est-à-dire que tout est énergie.
Oui, bien entendu. Bien sûr.
Bon, alors parlons un peu de saleté et de dégoût.
Allons-y.
Parce qu'une fois, j'avais invité la poétesse Ryoko Sekiguchi qui a travaillé sur les odeurs et elle m'expliquait que pour elle, aucune odeur n'était négative. Rien ne la dégoûtait. C'était toujours des projections et c'est pour cela que ça la dégoûtait. Mais dans le propre et le sale, vous dites que c'est un lent raffinement qui s'est installé parmi nous, que Montaigne ne pouvait pas supporter sa sueur.
Exact.
Qui ne se lavait pas plus pour autant, mais qui changeait de linge.
Changeait de linge, oui, bien sûr.
Et que dans le journal du médecin du futur Louis XIII, on nous apprend que le dauphin est baigné une première fois à sa naissance, une deuxième fois à l'âge de 7 ans.
Oui, absolument.
C'est ça. Et qu'il faut attendre le XVIIIe siècle pour arriver à un lavage partiel.
Exact.
La question est la suivante. À quoi ressemblait-on ? Faisait-on plus vieux que son âge à cette époque ?
Ah non, mais là c'est le même problème que tout à l'heure. Il y a une continuité, en fait. Alors, bien sûr, il y a des ruptures dans les modèles de représentation du corps, mais il y a une continuité dans l'exigence. Et je trouve que je suis pas le premier à le dire, hein. Quelqu'un comme Elias le dit très bien, en montrant qu'il y a une progressive distance prise par le corps par rapport à la pulsion. Et qu'est-ce que c'est que la pulsion ? Ben, c'est supporter, par exemple, le sale, etc. Or, il y a une distance progressive et continue. Alors, quelle est la façon dont l'absence d'eau est surmontée ? Ben, c'est le linge. Vous voyez, et Montaigne, c'est très intéressant au XVIIe. Hein. C'est à la fin du Moyen-Âge qu'on commence à utiliser le linge et à le changer. Et vous voyez une progression dans les règlements, par exemple, des collèges. Le linge est changé tous les mois en 1500 et quelques. Et puis, il est changé toutes les 3 semaines, puis toutes les semaines. Donc, il y a bien une exigence qui grandit.
Et l'on apprend dans votre ouvrage Histoire des pratiques de santé sur le sain et le malsain que, en fait, l'évolution majeure, si l'on peut dire, si l'on peut résumer grossièrement, c'est que jadis, on gardait la santé, aujourd'hui, on l'améliore.
Alors, ça, c'est un énorme problème que je considère comme tout à fait passionnant.
La prévention.
Oui, mais pas seulement. C'est pas seulement le problème de la prévention. C'est effectivement cette idée que la santé, c'est un acquis dans la tradition. Bon, et donc cet acquis, il faut le garder, il faut le préserver. Voilà. Mais aujourd'hui, ce qui est quand même très important, et on le voit bien dans la manière dont sont favorisées l'affirmation des sujets, l'individualisation, l'affirmation du moi, etc. Aujourd'hui, c'est plus seulement le fait de garder, c'est le fait d'améliorer un potentiel. Et c'est là que le sport aussi intervient comme pratique, ou les pratiques de gymnastique, etc. C'est avoir le sentiment que l'on peut, au fond, accroître, on peut optimiser, vous voyez ? Et ça, c'est une idée que je trouve contemporaine, qui ne me paraît pas du tout secondaire.
Mais une idée qui peut être à la fois salutaire et dangereuse, puisqu'on peut tomber dans l'hubris.
Alors, il est évident, oui, il est évident que cette montée de chaperon est le moi. C'est une montée paradoxale. Parce que, d'ailleurs là aussi, c'est ce que je travaille dans ce livre récent qui s'appelle les logiques du corps. Parce que la montée du moi, on le voit très bien aujourd'hui, ça peut entraîner le sentiment que le moi est tout puissant. Que le moi peut tout. Et vous avez certains textes dans ce qu'on appelle les textes de développement personnel, vous voyez. Vous avez cette idée sur laquelle, bah après tout, on peut dominer la maladie, il suffit d'avoir de l'énergie intérieure, il suffit de s'affirmer, ça, ce qui est, par certains côtés, extrêmement contestable. Donc, cette sorte d'assomption extrême du moi me paraît, oui, à la fois intéressante et largement paradoxale, et ajoutons, dangereuse. Quel est un moi que je trouve totalement caricatural aujourd'hui? Je ne veux pas faire de politique, mais c'est quand même le mois de Trump.
Oui, et on pourrait en citer d'autres.
Et on pourrait en citer d'autres.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Georges Vigarello, avant qu'on ne découvre votre carte blanche, je continue d'égrener comme ça certains de vos ouvrages qui sont absolument passionnants. Vous avez rédigé une histoire du viol qui va du XVIIe au XXe siècle. Et alors, on apprend dedans que sous l'Ancien Régime, on utilisait le mot « rapt » et qu'à un moment, on a fait la différence vers la Révolution française
absolument.
Entre le rapt de séduction
absolument.
Et le rapt de violence.
Absolument.
Ça paraît délirant aujourd'hui.
Mais c'est là que l'histoire du viol nous révèle énormément de choses sur notre culture. Et en particulier, bien entendu, il nous révèle l'extrême domination à laquelle les femmes étaient absolument condamnées.
Parce que les serveuses d'auberge, si elles se plaignaient, étaient considérées comme des prostituées.
Oui. Non, si vous voulez, c'est là que l'histoire est intéressante, vous voyez, pour comprendre, là encore, qu'il y a un affranchissement de la femme, qui n'est pas du tout terminé, bien entendu, ne nous illusionnons pas. L'égalité n'existe pas aujourd'hui, ne nous faisons pas d'images ridicules. Mais néanmoins, il y a une extrême évolution. Alors, pour revenir à votre exemple, que je trouve personnellement très important, qu'est-ce qui s'est passé dans ces époques anciennes? Et pourquoi rap de violence? Parce que l'image que la culture, et en particulier les hommes bien entendu, se faisait du viol, c'était une image sur laquelle la femme était soustraite à l'autorité dont elle dépend, qui est soit celle du mari, soit celle du père, du frère ou du tuteur. Et donc elle est soustraite, mais finalement qui est la victime? Écoutez, c'est passionnant comme histoire. Ben, c'est l'homme qui est la victime.
Qui a été lésé de sa marchandise.
Et oui, et voilà pourquoi on dit rapt. Donc on voit bien à quel point, au fond, les repères anciens sont des repères éloignés de nous et qui nous apprennent beaucoup. Alors, et ce n'est pas terminé. Parce que vous avez évoqué rap de séduction et vous avez évoqué rap de violence. Alors le rap de violence, c'est finalement ce qu'on appelle nous viol. Mais qu'est-ce que c'est que le rap de séduction? Le rap de séduction, c'est un comportement sur lequel le séducteur, entre guillemets, avec un grand S, c'est toujours l'homme. Bon, le séducteur parvient, il n'y a pas du tout d'égalité, parvient à convaincre sa victime, au fond, de le suivre et d'obéir à ses attentes. Bon, très bien. Mais aujourd'hui, le mot séduction est considéré comme quelque chose d'égalitaire. Or, dans ces époques anciennes, il est considéré comme inégalitaire. C'est-à-dire que l'homme est considéré comme porteur d'un pouvoir et la femme se soumet. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Parce que au XVIIe, ça va, la distance par rapport à nous est encore plus grande. Parce que les auteurs, la justice, même la jurisprudence, vous voyez, souvent on me dit la jurisprudence c'est pas pareil. Mais si, la jurisprudence applique ce genre de choses, applique quoi? Applique cette idée selon laquelle le rap de séduction, qui s'effectue sans violence, est plus grave que le rap de violence. Pourquoi? Parce que dans la situation de séduction, vous soustrayez totalement la femme par la passion à laquelle elle est soumise à l'autorité dont elle dépend. Alors que, vision ridicule de la violence, dans le rap de violence, vous ne parvenez pas à la soustraire. Parce que finalement, son corps reste son corps. Voyez, on voit bien à quel point les repères anciens sont à la fois éloignés des nôtres et en même temps à quel point ils nous apprennent un certain nombre de thématiques sur aujourd'hui.
et d'autres pas si anciens, et je pense notamment à votre évocation d'un procès où Gide était juré.
Alors ça, c'est plus récent, c'est un exemple très intéressant, vous avez raison de l'évoquer. Gide est juré à Rouen en 1911, et il assiste, entre autres, à des procès de viol, et en particulier à un procès de viol d'enfant. Et il n'est absolument pas troublé sur le fait que cet enfant qui a 8 ans est placé sur une chaise debout et elle est interrogée. Et donc évidemment, elle pleure et elle s'effondre. Et de ce point de vue, Gide reste quand même du côté des juges. Alors que les juges, par rapport aux repères que nous avons aujourd'hui, font une erreur absolument tragique.
Il se demande si l'enfant n'est pas coupable de séduction.
Et il demande si l'enfant n'est pas coupable, évidemment, évidemment.
Bon, alors là, difficile d'aborder un autre sujet après cette anecdote, mais je le fais quand même. Pouvez-vous nous dire d'où vient le mot silhouette? Car nous sommes beaucoup à l'ignorer. Et vous avez fait une histoire de la silhouette.
Oui, oui, c'est une histoire qui m'avait vraiment beaucoup intéressé, la silhouette, parce que c'est un mot qu'on utilise aujourd'hui pour décrire des corps qui sont, par exemple, silhouettés avec... Léonard de Vinci au XVIe siècle ou avant. En fait, silhouette, c'est un nom propre. Et c'est un ministre des Finances qui n'a pas duré longtemps, un ministre des Finances de Louis XV, qui officie dans les années 1749. Et ce silhouette donne son nom à ce dessin extrêmement furtif pour des raisons qui ne sont pas totalement claires aujourd'hui, mais qui orientent vers deux types d'interprétations. La première, c'est que silhouette est un ministre de la Justice qui a exigé des puissants, c'est la raison pour laquelle il va être viré, qui a exigé des puissants qu'ils donnent plus d'impôts à la communauté. Et donc la figure donnée des puissants, c'est finalement des individus pour lesquels les poches se retournent et qui sont complètement restreints parce qu'ils n'ont plus l'épaisseur qu'impliquerait les liasses de billets, vous voyez. Voilà une des raisons. Il y a une autre raison qui me paraît beaucoup plus crédible, c'est que ce ministre dessinait avec du charbon noir sur les murs des profils d'individus. Et c'est peut-être à partir de là que le mot silhouette a été utilisé. On le voit apparaître chez des auteurs comme Rousseau et quelques autres. Et alors pourquoi cette thématique de la silhouette est-elle intéressante ? Parce qu'on entre dans un principe de dessin qui, en quelques traits, doit indiquer l'essentiel, doit indiquer ce qui est le plus vivant, ce qui est le plus marquant. Et on le voit évidemment dans la façon dont l'affiche s'est imposée dans la deuxième moitié du 19e, vous voyez.
Et en parlant d'homme politique, j'ouvre le bal de votre carte blanche, Georges Vigarello.
Je suis républicain depuis que je respire. Et pourtant, au cours de 40 années de vie politique, j'ai eu le privilège d'avoir été traité de despote oriental par les socialistes, de voyou moscoutaire par l'Action française, de valet de Wall Street par les syndicalistes et de faux monnayeur par la haute banque. Voilà pour mes adversaires. Quant à mes amis, les amis n'aiment pas être fidèles. Ils ont l'impression de perdre leur personnalité. Quant à mes amis donc, ils se contentèrent de me taxer d'ambition et d'intransigeance. Deux appellations que je revendique.
C'est Jean Gabin qu'on entend dans Le Président d'Henri Verneuil, sorti en 1961, avec aussi Bernard Blier. Jean Gabin y joue un ancien président du Conseil, nommé Beaufort, qui dicte ses mémoires à son assistante. Le film a été adapté d'après le roman de Simenon.
Oui, Simenon.
Dialogue, Audiard, musique, Maurice Jarre, enfin bon, les meilleurs. Et alors, ce qui m'a frappé dans ce film que vous avez choisi, Georges Vigarello, pour votre carte blanche, c'est qu'on guette le corps de l'ancien président du Conseil comme celui d'un roi.
Oui, mais bien sûr, vous avez tout à fait raison. En plus, il y a une manière de porter le corps chez Gabin qui est extrêmement prenante, particulière, emportée, présente, silencieuse.
Ah oui, il lève le bras.
C'est une épopée, effectivement. Il lève le bras, et puis en plus, le bras indique un de ses anciens soutiens dont il va évidemment rompre la carrière parce que ce soutien en question l'a trahi, si vous voulez. Mais moi, ce qui m'avait frappé dans Le Président, c'était sans doute à l'époque où l'adolescence bouillonnait, si je peux dire les choses comme ça, en moi. J'avais besoin de parler, j'avais besoin d'exprimer, j'avais besoin d'exulter, si vous voulez. Et qu'est-ce que je vois dans le président ? Un gabin magnifiquement maître de lui-même, comptant ses mots, capable de silence impérieux. Je crois que c'est ça qui m'avait terriblement impressionné. Voilà pourquoi ça m'est resté, voyez-vous. Ça jouait en moi, alors on peut critiquer en disant oui, ça a une forme de machisme, etc. C'était pas tellement ça qui m'avait impressionné. Moi, ce qui m'avait impressionné, c'est cette sorte de maîtrise quasi silencieuse. Parce qu'on l'entend dans un discours qui est long, effectivement. Mais ce n'est pas le centre, en mon sens, du film. Le centre du film, c'est une parole rare, c'est une parole maîtrisée, c'est une parole qui est capable de s'imposer, ce qui est évidemment à l'inverse de la façon dont moi j'ai éprouvé mon adolescence à travers le bouillonnement dont je viens de vous parler, vous voyez. Donc, dans une certaine mesure, ça m'a aidé. Voilà ce que je peux dire.
Et avec des mots d'esprit, bon, signés au diar à chaque séquence.
Magnifique, magnifique. Et puis alors, avec en plus un Bernard Blier totalement perdu par rapport à ça, erratique, etc. Vous voyez, c'est l'inverse en quelque sorte.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits. Les bateaux, ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes aux reflets de ciel bleu, de mirage, traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord, j'aimerais les barbouiller ce gris en virant de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins, quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève où je vois tendant les bras l'amour qui comme un fou court au-devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord, moi je rêve encore jusqu'au matin debout sur le port. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafio craquant de la coque au pont, pour partir je travaillerai dans la soute à charbon, prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre. Où les filles alanguies vous ravissent le cœur en tressant, m'a-t-on dit, de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords, sans bagage et le cœur libéré en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil.
Georges Vigarello, on entend votre choix musical, Emmenez-moi de Charles Aznavour, sorti en 67.
Ça m'a marqué parce que ça renvoie évidemment à une sorte d'imaginaire du lointain, vous voyez, comme un imaginaire susceptible d'apporter quelque chose qui est dans de la plénitude, de la manière de vivre la plus intense qui soit, etc. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai travaillé sur le lointain. Un texte qui est sorti, je crois, en 2022, si mes souvenirs sont bons. Pourquoi j'ai travaillé sur les lointains ? C'est plutôt ça. Et du coup, ça me met en convergence avec Aznavour, mais ça ne me fait pas dire les mêmes choses qu'Aznavour. Même si je trouve que cette chanson, je me répète, renvoie à un imaginaire très fort, qui est une sorte de rêve, si vous voulez. Et là, la chanson est magnifique, et la façon dont il la parle est tout aussi magnifique. Mais les lointains sont intéressants pour plusieurs autres raisons. D'abord parce que, pendant très longtemps, il y a des lointains totalement inaccessibles. Et sur ces lointains inaccessibles, vous êtes livré à votre imaginaire. Par exemple, je ne sais pas, les Grecs n'arrivent pas à dépasser la Méditerranée, ils sont obligés d'imaginer des êtres dans le sud de l'Afrique, ou des êtres au-delà de l'océan, qui évidemment est infranchissable. Et donc ça m'intéresse. Comment les imagine-t-on ? Et on voit bien que la façon de les imaginer n'est pas tellement erratique que ça. On leur prête plus de membres, ou on leur en prête moins. On leur prête plus de vie, ou on leur en prête moins. Vous voyez, c'est fait du plus, du moins. Il y a quelque chose qui est plutôt dans l'ordre de la logique, ou plusieurs têtes, etc. Avec aussi de la violence, bon bref. Mais il y a un autre problème qui surgit aussitôt, c'est le suivant. Une fois que les lointains sont maîtrisés, entre guillemets maîtrisés, ils ne le sont jamais vraiment, mais une fois que l'océan est dépassé, finalement, les êtres sur lesquels vous fixiez votre imaginaire, vous les voyez. Et à ce moment-là, ce qui est absolument sidérant, c'est que votre imaginaire continue de fonctionner. Autrement dit, lorsque Magellan aborde le sud de l'Amérique et lorsqu'il franchit le détroit, et lorsqu'il voit les Sud-Américains, il les imagine très grands, ce qu'ils ne sont pas. Il les imagine ayant deux fois leur taille, vous voyez, le fameux Patagon. Donc c'est ça aussi que je trouve intéressant.
Donc on ne voit pas le réel.
Et ils ne voient pas le réel. C'est ça que je trouve intéressant. C'est-à-dire cette façon de continuer de projeter de l'imaginaire, alors que vous êtes face à un réel qui devrait s'imposer à vos yeux. Et cet imaginaire continue évidemment sur le problème de la manière dont ils mangent leurs semblables, la façon dont ils ont des violences atroces, etc. Et je trouve ça vraiment très parlant, si vous voulez. En plus, ce qui me paraissait intéressant dans la question des lointains, c'était la manière dont le corps est livré à la distance et la souffrance que cette distance impose. Sur les bateaux de Christophe Colomb 1492, il y a quand même des atrocités, hein, de difficultés, les biscuits qui sont totalement infectés. Je ne vous parle pas Magellan, ils partent avec 4 bateaux, ils reviennent avec 1 bateau et ils sont 200 et quelques, ils reviennent à 28, etc. Donc c'est aussi ça qui m'intéressait, vous voyez, la souffrance que le lointain vous impose.
Et pour parler de celle qui est excitante, quel est votre lointain à vous, Georges Vigarello ?
Est-ce que je peux vous répondre de manière totalement paradoxale et provocante ?
Oh, ben j'espère.
Mon lointain, c'est le temps.
Ah, j'avais peur que vous me disiez la mort et j'allais vous interdire d'en parler, parce que c'est le lointain de tout le monde.
Non, c'est le temps. C'est le temps. Ça c'est prolonger alors. Le présent.
Ça alors ?
Ben oui.
Oui, c'est paradoxal et provocant.
Oui, je suis d'accord avec vous.
L'adagio du concerto de clarinette de Mozart, composé en 1791 et interprété ici par l'orchestre de chambre de Zurich et le clarinettiste Thomas Friedli. C'est votre second choix musical, Georges Vigarello.
Alors écoutez, c'est très difficile de commenter et de parler de la musique. C'est quelque chose qui est tellement particulier que, à mes yeux, il est difficile de mettre des paroles. Mais ce qui me touche dans cet adagio et qui me touche depuis très longtemps, et que j'écoute de façon assez régulière, c'est incontestablement une présence absolument fascinante du souffle. Un souffle lent, maîtrisé, puis un souffle qui sort, qui s'exprime de manière totalement, je dirais, puissante. Et en même temps, c'est un souffle pluriel. Autrement dit, il y a bien sûr la clarinette, mais lorsque vous êtes très attentif, vous voyez qu'il y a 2 flûtes derrière. Et parfois, il y a le cor aussi. Et donc, dans une alliance magnifique avec les cordes, ça je suis bien d'accord. Mais donc, dans cette alliance-là, le souffle est extrêmement fort. Et personnellement, je ne vous le cache pas, Je trouve que dans l'existence, le souffle est une donnée très très importante. C'est une des rares données physiologiques centrales sur laquelle nous avons un certain pouvoir. Et j'avais beaucoup écrit là-dessus. Moi, par exemple, ce qui me frappait, vous voyez, pour prendre un autre exemple ailleurs dans la littérature, ce qui me frappait, c'était le texte de Bachelard sur la poétique de la rêverie. Et quand vous lisez ce texte, vous voyez que pour lui, la poétique, c'est du souffle. Et c'est un souffle qui essaie de continuer quelque chose qui est plein et qui se bat contre la rupture. Et ça, c'est absolument magnifique.
Sebastiane veritu famosus est. Sebastiane me ama.
Tous tulte impotens.
Une curiosité pour illustrer ce qui suit dans votre carte blanche, Georges Vigarello. C'est un film de 76, Sébastien, écrit et réalisé par Derek Jarman et Paul Humphreys. Et c'est en latin. Et c'est pour illustrer la peinture que vous avez choisie, Le martyr de Saint-Sébastien de Piero del Pollaiuolo.
Absolument.
Mais est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi vous aimez ce tableau?
Bien sûr.
Et aussi, moi j'ai fait mon mémoire sur Oscar Wilde, qui était fou de Saint-Sébastien, nous dire pourquoi il est considéré comme un symbole homoérotique depuis la Renaissance, cet homme transpercé de flèches.
C'est un tableau absolument fabuleux parce qu'il est le lieu d'une invention. Nous sommes tous d'accord, la Renaissance invente la profondeur. Et cette profondeur n'est pas du tout un phénomène superficielle lorsqu'il s'agit de parler du corps. D'abord parce que le corps gagne évidemment en galbe, en épaisseur, en moelleux, mais le corps gagne aussi en termes de gestuels. Vous avez des gestes qui peuvent partir du fond du tableau et qui vont vers l'avant. Je vous parle de ça parce que je suis en train de terminer, j'ai terminé d'ailleurs un livre sur le mouvement dans la peinture. Et donc vous avez des mouvements qui partent de l'arrière qui vont vers l'avant. Et vous avez aussi des situations tout à fait nouvelles, par exemple le fait de monter à l'échelle. Voyez, vous pouvez engager les pieds sur les montants de l'échelle, alors que dans la présentation de l'échelle, je pense à l'échelle de Jacob, dans le psautier de Saint-Louis au XIIIe siècle, les échelles ne sont pas du tout engagées vers la profondeur, parce qu'il n'y a pas de profondeur du tableau, donc c'est très compliqué de monter à l'échelle dans le psautier de Saint-Louis. Or, qu'est-ce qu'invente de surcroît le tableau de Pollaiuolo? Il invente le fait que le même geste est vu sous des angles différents lorsque les archers en question sont distribués autour de Saint-Sébastien.
Parce qu'on les voit se recharger en flèches, ils s'apprêtaient à
alors,
tirer.
Alors, on les voit charger, autrement dit, ils basculent vers l'arrière, d'autres basculent vers l'avant pour charger leur arbalète. Mais les tireurs, dans une certaine mesure, c'est exactement le même. Simplement, le même geste est vu sous des angles différents. Et on sent que le peintre est fasciné, à mon avis, par le mouvement, pour le montrer sous tous les angles, un peu comme si le peintre faisait le tour au même moment de l'ensemble de la scène. Et ça, c'est une invention magistrale, parce que ça renvoie à une curiosité qui n'existait pas jusque-là, vous voyez. Et cette curiosité n'en finit pas, d'ailleurs, parce que on peut très bien continuer à montrer davantage les moments du geste et sur le même tableau. On voit par exemple Uccello, un peu avant, hein, en 1450, Uccello dans le fameux combat de San Romano, vous voyez, où vous avez des lances qui s'orientent différemment et qui montent la profondeur. Mais Uccello, dans un endroit très précis du tableau à droite, il vous montre le même mouvement dans plusieurs moments exécuté par le même lanceur de lance. Et ça, c'est une invention magistrale. Pourquoi? Parce que ce n'est plus l'intériorisation de l'espace, c'est une confrontation entre l'espace et le temps.
Alors, c'est absolument passionnant et nous n'aurons pas la réponse, hélas, de pourquoi est-il devenu un symbole homoérotique, parce que nous n'avons pas le temps. Mais je précise tout de même que Mishima évoque, dans Confession d'un masque, la version de Guido Reni à laquelle doit son narrateur son éveil sexuel. Et pour terminer, en quelques secondes, vous avez choisi aussi un tableau de Fragonard.
Oui.
Les hasards heureux de l'escarpolette, 1767, escarpolette devant être entendue comme balançoire.
Balançoire, bien entendu. Alors pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, vous voyez, c'est très intéressant l'affaire du mouvement. Parce que le mouvement intègre le temps, etc. Mais le mouvement va finir par intégrer les instants. Lorsque vous regardez avec attention le tableau de Fragonard, vous voyez que la jeune femme sur la balançoire, elle est tirée par quelqu'un, bien entendu.
Sur la droite.
Mais à droite, bien sûr. Mais elle essaie aussi de donner de l'élan avec les jambes. Et qu'est-ce que vous entrevoyez? Vous entrevoyez le fait que dans ce mouvement qui prend l'élan, la sandale s'échappe du pied. Et donc ce que montre Fragonard, c'est un instant absolu. Et cet instant est beaucoup plus compliqué parce que vous avez un observateur qui est situé au-dessous et que voit-il? Il voit tout simplement le dessous de la robe. Et donc, on voit bien comment le peintre est confronté à la nécessité non seulement de présenter l'espace, non seulement de confronter l'espace avec le temps, mais d'intégrer la question des instants.
Merci beaucoup, Georges Vigarello.
C'est un plaisir.
Pour moi aussi, vraiment, et j'imagine que pour les auditeurs aussi. Votre nouvel ouvrage, j'avais plein de questions à vous poser dessus, mais je n'ai pas eu le temps. Mais il était absolument passionnant. Je l'ai lu pour cette émission. Les logiques du corps, une autre manière de penser le temps, sortira au Seuil le 20 mars prochain. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas et Franck Olivard, à la programmation musicale Juliette L'Orphelin, à la technique Loïc Frapsos.